Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de vous changer les idées, parce que vous êtes un petit peu tanné d'entendre parler de la COVID-19, je vous rappelle que sur le site de Cube Radio, vous avez accès à tout plein de balados. Et vous savez que j'en anime un avec mon mari Richard Martineau, ça s'intitule L'apéro piquant. Des invités avec qui on prend un petit verre, on jase de toutes sortes de sujets. Et notre tout nouveau balado qui est en ligne à compter d'aujourd'hui, c'est avec l'auteur scénariste et humoriste Pierre Huet, vraiment un gars qui a porté toutes sortes de chapeaux au cours de sa carrière, autant comme parolier pour Beau Dommage, pour Offenbach, pour Paul Piché et d'autres, que dans le domaine de l'humour comme scripteur pour un tas d'émissions. Et on lui a parlé de la fois où il avait écrit la biographie de, devinez qui? Gilbert Rozon.
Le livre est écrit.
Ah, il est écrit?
Il existe deux exemplaires au monde, un chez moi, un chez Gilbert Rozon.
Ah, je ne savais pas. Moi, je pensais que tu étais en train de l'écrire et que là, les allégations qui sont transformées en accusations sont sorties après.
Il est écrit et l'éditeur français, Lafon, Madame Lafon, Elsa Lafon, s'en vient à Montréal pour parler du livre. Et il nous reste comme deux pages à écrire parce qu'on attend juste que, je sais pas quelle date on était, mais que l'année du 350e qu'on fêtait, c'était quoi, 375 de Montréal?
Oui, 375.
Dont Gilbert était le président honoraire.
Bon. Oui, c'est vrai,
alors,
il était sur le comité.
On fermait le livre avec ça. T'sais, donc, il est resté deux, trois pages à lire. Donc, je demande à l'assistante de Gilbert, imprime-nous deux exemplaires pour la venue de Mme Lafon. Et je dis à elle, enferme ça dans le tiroir qui borde. Il y a juste deux exemplaires. Et c'est comme deux, trois jours après, c'est-à-dire soit entre le fait que j'ai demandé ça et l'arrivée d'Elsa Lafon, des éditions Lafon, qui est arrivé le scandale.
Alors, c'est un tout petit extrait de cette entrevue absolument passionnante avec un gars absolument passionnant. Et il va vous raconter toutes sortes d'anecdotes sur une fois où Guy Latraverse avait menacé quelqu'un d'un duel. C'est rempli d'anecdotes complètement folles sur des virées un peu capotées la nuit avec Éric Lapointe. Bref, une vie bien remplie dans le cas de Pierre Huet. Donc, vous allez retrouver tout ça dans la section balado de Cube Radio. Et je pense qu'à quelques reprises pendant ce balado, vous allez pousser un amusé ou un intrigué. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Depuis le début de la pandémie, il y a un certain nombre de médecins, de scientifiques qui, sur les réseaux sociaux, nous tiennent au courant de la vraie de vraie situation sur le terrain. Parce que des fois, le gouvernement nous dit le ciel est bleu, puis finalement, les gens sur le terrain nous disent non, il y a des gros nuages noirs ou carrément, on est en pleine tempête. C'est le cas de Dr Amélie Boisclair. Elle est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur. Et hier, elle a fait toute une série de gazouillis sur Twitter pour nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Et ça n'est pas Jojo. Docteur Boisclair, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre fil Twitter hier. La situation est sur une échelle de 0 à 10 en termes de gravité, selon vous, on est rendu à quoi? À 22?
Ben, en fait, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois que je pense qu'on a atteint l'échelon maximal, manifestement, il y en a des nouveaux. Hein? Puis nous, on déploie toujours des ressources pour pas se rendre au bout. Fait que je pense que finalement, l'échelle n'a pas de fin.
Alors, donc, essayons-nous quand même à faire l'exercice, oui. Parce que vous dites que la situation, évidemment, sur le terrain, le fait qu'il n'y ait plus de place, que la capacité maximale est non seulement atteinte, mais dépassée, ça nous indique une gravité absolument énorme. Donc, de 0 à 10, vous mettriez quoi comme évaluation?
Alors, je pense que 22, vous aviez pas tort. Hein.
Bon. D'accord. Alors, gardons ça de façon plus précise. Vous écrivez sur votre fil Twitter « La capacité hospitalière est dépassée, les soignants sont épuisés et le délestage aura des conséquences importantes à moyen et à long terme sur la vie de ces patients. » Vous, depuis le début de la pandémie, c'est la pire journée que vous avez vécue hier?
Ben, en fait, j'ai l'impression qu'on joue beaucoup sur les mots hein, dans les communications en disant « Bon, on a encore de la marge de manœuvre. » T'sais, on tient le coup, mais je me demande toujours qu'est-ce qui tient? Parce que du moment où on est obligé d'avoir un arrêté ministériel pour s'assurer qu'on a des équipes en quantité suffisante, que malgré tout ça, on a de la difficulté à garder tous les lits ouverts en tout temps, qu'il y a du délestage pour avoir de la place pour admettre tous les patients, à partir de quel moment on dit « ben non, ça va pas ». Parce que si la capacité était là, j'ai pas d'arrêté ministériel, j'ai pas de délestage, il y a personne qui est mis en attente de ce traitement, puis tout roule sur des roulettes.
Oui, je comprends.
C'est ça qui me décourage un peu, là.
Mais quand vous dites, il y a des gens qui disent on tient le coup, c'est le gouvernement qui tient ce discours-là. Oui. Donc, ce à quoi vous voulez nous alerter aujourd'hui, c'est à cette dissonance qu'il y a entre le discours officiel du gouvernement et ce qui se passe sur le terrain.
Exactement. Puis c'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. Puis je comprends après que probablement ce qu'on veut faire, c'est rassurer la population. Puis moi, en même temps, j'essaie de faire la même chose, puis de dire, nous, on se bat pour soigner nos patients. Mais là, plus ça va, plus on lance des signaux d'alerte, bien, plus on s'inquiète définitivement pour la qualité des soins qu'on est capable d'offrir. Puis en même temps, je suis obligée d'admettre que dès qu'on a du délestage, bien, ça veut dire qu'il y a une qualité de soins qui n'est plus optimale parce que ces patients-là avaient besoin de leur intervention et on est obligé de les remettre à plus tard. Donc, oui, c'est inquiétant. Puis, on a l'impression souvent dans les hôpitaux qu'il y a une dissonance entre nous, ce qu'on vit sur le terrain et comment c'est perçu ou annoncé au reste de la population.
Oui. L'hôpital où vous travaillez est rendu à quel stade?
Niveau 4.
Niveau 4. La différence, pour que tout le monde comprenne bien, la différence entre stade 4 et stade 5, ce serait quoi?
Ben avant, le stade 5 n'existait pas.
Ça dit tout?
Ben écoutez, ce serait à confirmer, là, mais ma compréhension, c'était que le stade 4, c'était le dernier palier. Là. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, non.
Avec le stade 5, c'est que même certaines chirurgies urgentes vont être révisées, mais ça, il faudrait confirmer parce que
d'accord.
Pour nous aussi, sur le terrain, ça change continuellement et on apprend au fur et à mesure. Là. C'est pas comme si j'avais quelques jours d'avance sur le reste de la population pour savoir ce qui se passe.
Vous l'apprenez en même temps que nous?
Oui.
Mais c'est parce que la crainte qu'on a, on va se le dire, on va dire les vraies affaires aujourd'hui, docteur Boisclair, c'est que juste après là, l'étape du délestage, qui est d'annuler des entrevues, des chirurgies, de les remettre à plus tard, juste après le délestage, on passe au mode triage. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné, vous allez avoir deux... le délestage, c'est de dire on ne fait que les chirurgies d'urgence, mais la prochaine étape, ce serait de dire ben, on va se retrouver face à deux patients dont le degré d'urgence est le même, et on va devoir décider, est-ce qu'on soigne le patient A ou le patient B? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Hein?
Ben, il y a deux choses, tu sais, tant qu'à se dire les vraies affaires. Oui, définitivement, tu sais, qu'on doit activer le protocole de priorisation, c'est sûr que c'est toujours une inquiétude qui hante, je crois, chacun des soignants. OK? Par contre, quand on fait du délestage, c'est une certaine priorisation. Tu sais, ça, il faut pas se le cacher. Ce n'est pas parce qu'une chirurgie peut se permettre d'être planifiée qu'elle n'est pas urgente.
Mmh. Donc, c'est un délestage qui ne dit pas... C'est un triage qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui a un cancer qui doit se faire... Mettons, je prends l'exemple de cette jeune femme dont on raconte l'histoire dans la presse de ce matin, là, qui attendait une chirurgie pour l'ablation de l'utérus parce qu'elle a un cancer du col de l'utérus. Si on lui dit, ben, on remet votre chirurgie, sa chirurgie, elle est urgente, mais on la remet... Donc, on est en train de faire du triage en disant, ben, il y a quelqu'un qui est urgent aussi, mais qui va passer avant toi.
Vous savez, chaque patient qui est en attente d'une chirurgie, là, ces chirurgies-là ont été évaluées par des médecins qui ont jugé que la chirurgie était nécessaire. Et par la suite, il y a un délai optimal qu'ils ont mis dans le temps pour le bien-être de leurs patients. OK? Une chirurgie élective, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sans conséquences, sans impact sur la qualité de vie du patient ou sur son pronostic vital si on la remet au calendrier grec. Là. Fait que c'est sûr, tu sais, je lisais cette histoire-là, puis c'est évidemment un cas terrible, puis comment dire, j'ai pas de mots, parce que justement, ça met un visage et un nom, ça rend ça très concret d'avoir ces histoires-là, mais c'est ce qui se passe. Puis même sans parler de cancer, si on parle d'une chirurgie de la hanche, par exemple, une prothèse de genou, mais les gens qui sont rendus à la chirurgie, c'est qu'ils ont épuisé tous les autres moyens pour... Voilà. Donc, ça a un impact sur la qualité de vie. Puis on peut même dire que chez certaines personnes peut-être plus âgées, de ne pas pouvoir bouger comme ils pourraient le faire, ben à ce moment-là, ils se déconditionnent. C'est leur masse musculaire qui diminue. Donc, ça va avoir un impact sur leur autonomie à moyen long terme aussi. Donc, c'est des chirurgies qui peuvent se permettre d'être retardées parce que la vie n'est pas en danger immédiat à l'instant où on se parle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas urgente.
C'est très important d'apporter cette nuance-là. Donc, il y a l'urgence, mais il y a l'immédiateté. Donc, il y a des gens qui doivent être opérés de façon immédiate et d'autres, on peut... en forçant très fort, avec un gros forceps, dire on va la remettre à plus tard, mais il va y avoir des conséquences. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que je trouve ça important que vous ayez soulevé tous ces points-là sur votre compte Twitter. Une autre chose dont vous parlez sur votre compte Twitter, docteur Boisclair, c'est la fameuse question des aérosols. Je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on n'en tient pas plus compte que ça? Vous dites, vous, le rôle des aérosols doit être reconnu et adressé. On est en retard. Et vous dites, reconnaître ce mode de transmission aidera à surmonter la cinquième vague et aidera à prévenir, contenir d'autres vagues ensuite. Comment ça se fait qu'il n'y a pas, que le message ne passe pas alors qu'on le sait que ça se transmet par aérosol et que donc la ventilation est extrêmement importante? Comment ça fait que le gouvernement ne reconnaît pas ça plus que ça?
Ben, écoutez, ça, si j'avais une réponse, ben probablement qu'on pourrait régler le problème. Là, c'est comment dire, la science évolue, hein? La science évolue, puis ça, c'est normal. C'est sûr que nos connaissances actuelles sont complètement différentes de ce qui se passait dans la première vague. Puis ça, c'est important de garder ça en tête. Ça, on peut pas dire, mais pourquoi au jour 1 de la pandémie, ils n'ont pas tout changé la ventilation?
Mais non.
On apprenait. Mais là, on a deux choses. Hein? Déjà, on veut... au maximum, tu sais, j'entends beaucoup de gens parler de l'après. Puis c'est sûr que c'est important, il faut avoir la réflexion, hein, parce que manifestement, là, on a compris que le COVID, il est là pour longtemps. Fait que c'est sûr qu'il faut amener une réflexion sur le long terme, mais il faut aussi là commencer par passer à travers cette vague-là. Hein. Puis, si on veut guérir des gens, ben il n'y a encore rien de mieux que de prévenir. Mais et oui. Là, on se coupe de moyens qui... pour certaines façons, tu sais, par exemple pour la ventilation, ne sont pas nécessairement très difficiles. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, il fait extrêmement froid, mais, tu sais, il y a des experts dans le domaine, là, puis, tu sais, des ingénieurs, quoi que ce soit, qui apportent des solutions. Et il faut les écouter, ces gens-là. La gestion d'une pandémie doit se faire de façon multidisciplinaire, surtout si on veut s'en sortir, hein? C'est pas moi qui a toutes les explications et les réponses à ce qui se passe. Par contre, là, la propagation aérosol, elle est prouvée. On a plusieurs exemples de pays, par exemple en France, en Angleterre, où depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, il y a des publicités aux heures de grande écoute sur comment protéger son environnement, comment se protéger, c'est quoi la notion d'aérosol. Puis ça, c'est important parce que la population a besoin de comprendre c'est quoi le mode de propagation, parce qu'à ce moment-là, tous nos gestes du quotidien vont être adaptés. Puis quand, là encore, je le répète, là on est dans le cœur de la tempête. Mais quand la tempête va passer un peu, cette compréhension-là va nous permettre de se dire, OK, mais moi, comment dans mes gestes je peux m'assurer de continuer de vivre mon quotidien, mais d'essayer de minimiser le fait que ça reflamme encore. Parce que là, il faut passer à une autre étape de la compréhension de la maladie pour arrêter, ben éviter du moins de toujours être on ouvre, on ferme, parce que ça aussi, c'est épuisant. Là.
Tout à fait.
Ça, ça va nous permettre peut-être, d'avoir une meilleure planification aussi. Tu sais, des pistes de réflexion aussi, parce que vivre avec le virus, ça veut pas dire vivre comme s'il était pas là.
Tout à fait.
Ça veut dire le comprendre.
Oui. Parlant d'épuisement, comment est la situation avec vos collègues du personnel de la santé à votre hôpital, ceux avec qui vous êtes en contact à Le Garda, ça se passe comment l'état d'esprit est comment quand on parle d'épuisement professionnel justement?
Ben c'est sûr que ça fait longtemps qu'on le dit, hein, que ça va être un enjeu qui va devoir être adressé. Les professionnels là qui sont sur le plancher, ben justement ces professionnels là qui offrent des soins de qualité, qui sont présents, qui sont là pour les patients puis leurs proches, mais c'est sûr qu'on sent un grand épuisement, on sent plusieurs sentiments différents là. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue émotionnelle, il y a toujours une espèce de culpabilité, on dirait, quand on entend que les gens se disent ben j'en peux plus, mais ils veulent être là pour ceux qui restent, hein, parce qu'à chaque fois, on sait que la charge de travail pour les autres augmente. Il y a quelqu'un qui sort de tout ça. L'arrêté ministériel, c'est un sentiment partagé parce que d'un côté, on le voyait bien comme en quête de bras. Là. C'est ça notre principal enjeu. On a une grosse pénurie de personnel, mais en même temps, la solution vient des mêmes personnes qui sont épuisées et pour lesquelles on n'avait plus assez de personnel. Donc, il y avait besoin d'un peu de repos, puis ça, c'est mon humble opinion, là, mais c'est pas une semaine de vacances là, qui leur permet de récupérer. Ça leur permet juste de sortir un peu la tête de l'eau. Puis ça a été annulé. Donc, c'est un peu ceux qui tiennent le fort depuis 2 ans, là, qui sont au combat, qui ont vécu toutes les vagues, toutes les émotions, toute la fatigue associée, qui, encore une fois, on le parle souvent, hein, qu'ils aimeraient avoir de la reconnaissance, un petit peu plus qu'un merci, là, je sais pas, mais tout ce qui vient avec la reconnaissance du travail. Fait que c'est sûr que l'imposition de l'arrêté, même si on s'y attendait, même s'il était attendu, puis il y a une compréhension derrière tout ça, hein, on a besoin de soigner les patients, c'est sûr que ça a été plus ou moins bien vécu, disons.
Oui, et aussi dans la conférence de presse où on a présenté le successeur de Dr. Horacio Arruda, je pense que c'est le premier ministre François Legault lui-même qui disait, bon, des vacances bien méritées, et puis qu'il méritait d'avoir des vacances. Dr. Arruda, moi, j'ai des amis dans le système de santé qui m'ont dit, ça passe mal parce que nous, on devait prendre des vacances, puis on s'est fait dire qu'on n'avait plus le droit. Et pendant ce temps-là, vous dites à Dr. Arruda que ces vacances sont bien méritées, mais nous aussi, ça fait 2 ans qu'on travaille comme des fous, puis on aurait mérité aussi des vacances. Est-ce que ça a été le cas dans votre cas aussi, quand vous avez entendu cette phrase-là, ça vous a un peu choqué?
Bien, en même temps, là, il faut prendre soin de tout le monde. Fait que c'est pas moi qui va dire que Dr. Arruda, il mérite pas ses vacances. Mais définitivement, tu sais, parce que c'est 2 ans, là, tu sais, dans un poste important, fait que je le comprends, ça. Mais oui, et définitivement, les gens qui sont sur le terrain aussi ont besoin de vacances et de support et de ressources, parce que, comme je vous le disais plus tôt, ce n'est pas une semaine de vacances là, qui permet de récupérer ou de récupérer du temps avec sa famille ou d'avoir l'impression que tu dis, OK, je suis reposée, là, tu sais, je suis prête à reprendre, pas avec ce qu'on vit présentement. Pas avec ce qu'on vit. Fait que je pense que c'est aussi, dans le système de la santé, on se le rappelle, là, une année, la vague va passer, mais nous, ça va continuer avec les mêmes équipes. Fait que c'est pour ça que c'est important là, d'avoir une réflexion à long terme et de mettre tout en œuvre pour prévenir. On a plein d'outils. Là. Ça va nous prendre des tests rapides, ça va nous prendre des mesures claires auprès de la population, reconnaître l'aérosol, prendre tous ces moyens-là pour minimiser l'impact de vagues successives, parce que le délestage, ben, il va falloir le rattraper un jour.
Avec ouais, et ça, et là là, et ça, ça va pas être beau. Ça va être une vague aussi de chirurgies qui vont devoir être faites. On va devoir rattraper tout ce temps perdu là. Et dans certains cas, ce sera pas rattrapable, et c'est ça qui fait peur. Docteur Amélie Boisclair, vous êtes interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Merci de continuer. Ben, premièrement, merci d'être là. Merci de continuer à soigner. Merci de communiquer avec nous. Vous le faites dans des termes simples et compréhensibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans les discours du gouvernement. Des fois, c'est pas clair et pas compréhensible. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Surtout, c'est ce qui est important.
Vous savez, si je peux me permettre,
oui, allez-y.
Moi, je suis intensiviste, je suis au bout de la ligne. Dans les soins aigus critiques, là, je suis au bout de la ligne. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner à la population le plus de moyens possible pour qu'on puisse se rencontrer comme citoyen, mais pas comme docteur.
C'est tellement bien dit. Très bien
c'est
dit.
Vraiment, il n'y a rien de mieux pour moi de savoir que quelqu'un n'aurait pas besoin d'être malade au point d'avoir besoin de mes services.
Je le comprends et c'est un très beau message, plein de bienveillance. Merci beaucoup, Dr. Boisclair.
Merci, bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
On le savait qu'avec la situation pandémique dans les hôpitaux, qu'il y aurait du délestage, mais quand on met un visage sur chacune de ces histoires-là, ça nous touche encore plus. Au cours des derniers jours, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a eu plusieurs histoires où on avait comme ça des victimes de délestage, puis c'est ce matin aussi dans la presse des histoires qui viennent vraiment nous toucher. Ça a touché en tout cas beaucoup Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Ben effectivement, là, depuis qu'on parle de délestage, ça fait quand même longtemps qu'on parle de délestage, mais on sent que ça s'accélère, ça prend de l'ampleur, ça touche toutes les régions du Québec maintenant. C'est des visages qu'on met, hein. Tu sais, c'est pas juste parce que délestage dit comme ça, c'est quand même un mot qu'on connaît. Mais quand on lit les histoires, quand on entend des gens parler autour de nous aussi qui ont pris congé parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une convalescence, finalement, il n'y a même pas d'opération, il n'y a donc pas de convalescence. Et il y a l'inquiétude qui grimpe parce que quand on est censé avoir une chirurgie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais oui.
Et justement, dans la presse plus ce matin, on lisait le cas de Stéphanie Noiseux. Écoute, c'est d'une tristesse, et ça démontre ce qu'on vit, à quel point c'est dramatique. Elle a 34 ans. Elle a 4 enfants. Elle a la sclérose en plaques. Donc, on c'est beaucoup pour une jeune femme de 34 ans.
Ça fait beaucoup pour sa petite tasse de thé, oui.
Exactement. En 2018, on lui dit qu'elle a probablement un cancer du col de l'utérus. Et ça, on le sait à quel point ça doit être pris rapidement, le cancer du col de l'utérus. Et elle passe un test en 2018. Et en 2018, là, on était pré-COVID, là, tu sais, on n'était pas du tout on était déjà, ça allait pas bien dans le système de santé, mais il faut quand même bien spécifié que c'était avant la COVID.
Absolument.
Et elle n'a pas eu son résultat. C'est drôle parce que ça aussi, moi, ça m'est arrivé dans mon entourage. Des gens qui passent des tests qui n'ont pas de résultat. Et là, il y a deux comportements. Il y a ceux qui vont dire, ben pas de nouvelles, bonne nouvelle, parce que c'est toujours un peu, on a toujours peur quand on passe des tests d'avoir l'appel qui dit, écoute.
Des fois, on veut pas le savoir. Exactement. On a peur de le savoir, oui.
Puis t'as ceux qui, c'est le contraire, ils vont dire, je veux savoir, sinon, tu sais, ça marchera pas. Ben Stéphanie semble faire partie de ceux qui sont dit, ben écoute, pas de nouvelles, bonne nouvelle, donc je continue, donc c'est, tu sais, mon utérus va bien et tout ça. Finalement, en 2021, elle se rend chez le médecin parce que rien ne va plus. Elle est vraiment très malade. Et en ouvrant son dossier, le médecin lui dit « Oui, mais en 2018, là, on vous avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. » Donc, en 2018, c'était positif. On lui a pas dit. C'est pour ça que c'est pas juste... Oui, il y a le délestage, mais des fois, notre système de santé, il y a quelque chose... Ben, c'est pas la première là qu'on entend. Mais c'est des drames à chaque fois. Donc, finalement, on décide qu'il faut absolument lui enlever l'utérus. Et il y a un immense protocole dans son cas parce qu'elle a la sclérose en plaques. Donc, elle a dû arrêter sa médication pour pas que ça vienne nuire à la nouvelle médication qu'elle aura après la chirurgie. Donc, le fait qu'elle arrête la médication fait en sorte qu'elle a des problèmes de sclérose en plaques. Ça se manifeste davantage. Et finalement, elle apprend qu'elle n'aura pas sa chirurgie parce qu'elle fait partie du délestage, parce qu'elle, elle aura besoin de soins intensifs après. Et il n'y a pas de lit, il n'y a pas de disponibilité pour ce type de chirurgie présentement. Alors moi, là, je lisais ça, Sophie, là, puis je capotais.
Ah, ça crève le cœur. Ça crève le cœur, surtout qu'elle doit l'annoncer à ses enfants, puis qu'il y a un de ses enfants qui lui dit « Mais maman, le cancer, ça tue. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? » Parce que on dit... Je me mets évidemment dans la tête d'un enfant qui dit « Ben, c'est parce que l'opération de maman ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des gens à l'hôpital à cause de la COVID et les gens peuvent mourir de la COVID. » Oui, mais attends deux secondes, le cancer aussi, on en meurt, donc pourquoi... je comprends l'incompréhension du jeune.
Ben, c'est... Et la mère de Stéphanie, le Noiseux, elle est décédée en 2020 à l'âge de 63 ans en attendant une opération parce qu'elle aussi, elle a été délestée à cause de la COVID.
Et elle pose la question, parce que chaque phrase de ce reportage-là, tu dis, voyons, ça se peut pas. Elle dit, est-ce que vraiment ça peut frapper deux fois la même famille? Donc, t'imagines si, dans la même famille, la mère et la fille étaient toutes les deux décédées, en fait, si c'était ça la conséquence, à cause du délestage. Puis, je veux revenir, Marie-Claude, sur ce que tu disais au tout début, sur le mot délestage, c'est un espèce d'enrobage pour dire des chirurgies annulées, des gens, avoir vraiment un impact énorme à court, à moyen et à long terme. Parce que là, on parle de quelqu'un, évidemment, qui a un cancer, mais il y a toutes sortes d'autres opérations qui devraient avoir lieu pour soulager la douleur. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'une opération à la hanche parce que il y a de la difficulté à se déplacer. Si on dit à cette personne-là, tu peux pas te faire opérer aujourd'hui, mettons qu'elle se fait opérer dans 3 mois ou dans 6 mois, l'impact que ça va avoir sur la douleur de cette personne-là, le fait que cette personne-là peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il y a des proches aidants qui doivent l'aider. Donc, c'est tout l'effet domino. Tu dis, c'est juste une opération qui est annulée, mais c'est l'effet domino sur cette personne-là, son entourage, les proches aidants, sa famille, ses enfants, son travail. Cette personne-là ne peut pas retourner au travail, dont l'impact pour la société est énorme et je pense qu'on n'en mesure pas assez les conséquences.
Absolument pas. Puis il faut entendre ces gens-là dans leur détresse, hein? Parce que, tu sais, des fois, on ne peut pas dire, ben oui, mais garde, tu n'es pas toute seule. On ne peut pas dire ça. Chaque cas est important. Je parlais la semaine dernière à Dr. Jonca, qui est chirurgien orthopédique. Puis il disait, tu sais, le report d'une opération au genou, à la hanche, à la colonne, tu sais, c'est vraiment lui ce qui reporte le plus. Ça peut. Tu sais, pour des gens, c'est pas comme si c'était le cœur ou le cerveau ou les poumons. Mais ces gens-là, là, ils prennent déjà de la médication qu'ils vont devoir prendre de plus en plus fort parce que la douleur s'intensifie. Comme tu viens de le dire, ils peuvent pas aller marcher, ils peuvent pas aller patiner. Tu sais, ils peuvent pas aller faire du ski. Je veux dire, ils sont en cabane de plus en plus.
Donc, impact psychologique.
Ils vont prendre du poids, donc vont augmenter les chances, je ne sais pas si on va dire les chances, mais en tout cas les risques plutôt d'avoir une maladie cardiaque. Donc, on développe des comorbidités. Ça veut dire d'autres maladies qui accompagnent celle-ci. Donc, on développe des comorbidités alors que ça aurait pu être une chirurgie d'un jour, là. Avec après ça, ben de la physiothérapie ou tu sais de quelque chose pour se remettre en forme. Mais là, quand on n'a pas la chirurgie, c'est épouvantable. Alors, lui, tu sais, il disait ça, c'est des drames. Chaque personne vit ses drames. Mais c'est sûr que tu sais, si vous vous cassez la jambe, on va vous opérer. C'est une urgence. Moi, je voulais dire en 2004, là, ça fait longtemps de ça.
Oui, raconte.
Moi, j'ai fait une chute et j'ai eu vraiment plusieurs fractures au coude droit, puis on a dû reconstruire mon coude. Là, c'était une intervention majeure à l'époque. Ce sera encore une intervention majeure. Mais quand j'étais allée faire enlever mes broches qui retenaient, qui étaient là en guise de pointiture,
oui.
Je me souviens très bien que, écoute, c'est en 2004, ça fait longtemps déjà, l'orthopédiste me disait, il dit là, tu sais, je suis obligée de reporter des cas d'opération, puis c'est des gens qui ça avait l'air de rien, c'est une hanche. Je dis, pour moi, c'est pas une grosse opération, mais eux, le fait de reporter, ça va avoir des conséquences sur leur vie parce qu'il manquait d'inhalothérapeute et il manquait aussi d'anesthésiste parce que faire vivre une salle d'opération, là, ça prend beaucoup de monde, ça prend des infirmiers, des infirmières, tu sais. Alors, voilà. Quand il manque des gens, fait que ça, c'était en 2004. Alors, on peut-tu s'imaginer en 2022 avec la COVID? Fait que c'est sûr que ça démontre à quel point on était déjà à bout de souffle, on était déjà pas capable de répondre à la demande. Mais puis le délestage, Sophie, c'est quand tu avais déjà un rendez-vous aussi. Alors, on peut penser à ceux qui arrivent même pas à avoir un rendez-vous.
Ben ceux qui arrivent même pas aussi, et il y a un autre effet pervers de toute cette pandémie et du fait que en fait nos hôpitaux soient débordés, c'est que il y a plein de gens, et ça c'est les médecins n'arrêtent pas de répéter ce message-là, il y a plein de gens qui par exemple vont avoir des symptômes, vont avoir un malaise, vont avoir et n'iront pas voir leur médecin ou n'iront pas même s'ils ont en main un papier du médecin pour avoir un rendez-vous pour un examen, ils n'iront pas parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID en allant à l'hôpital pour faire passer un test, ou même si c'est juste une radio dans une clinique de radiologie, ils vont avoir peur d'y aller. Donc, il y a plein de maladies qui vont continuer à se développer et peut-être même, dans certains cas, à s'aggraver parce que les gens sont réticents à y aller, ou même des gens qui sont réticents à y aller. Tu sais, quand tu te fais dire à longueur de bulletin de nouvelles, les hôpitaux sont débordés, ben, même si t'as mal quelque part, tu dis, bon, ben, je vais rester à la maison parce que je veux pas engorger le système. Donc, il y a plein de gens qui vont développer des pathologies parce qu'ils veulent pas aller eux-mêmes engorger le système. Donc, on se prépare des lendemains très, très pénibles.
Et on ne sait pas encore comment on va arriver à rattraper toutes ces chirurgies qui se seront d'ailleurs, d'après moi, compliquées au fil du temps. C'est ça aussi, c'est un drame. Puis tu sais, je me dis, Sophie, admettons, toi, tu passes des tests demain. Puis là, finalement, on trouve quelque chose, là, tu as un diagnostic et qu'on tu puisses rien faire avec ton diagnostic.
Ça doit être
l'horreur. Tu sais, tu lèves la main. C'est terrible, là, vivre avec ça. Alors, faut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là. Puis quand je regarde une jeune femme comme Stéphanie Noiseux,
oui.
Pour moi, c'est difficile à comprendre pourquoi elle n'est pas priorisée parmi les priorisés. Tu sais,
c'est ça. Puis ça nous rend-tu encore doublement en colère contre les gens qui se retrouvent aux soins intensifs et qui n'ont pas été vaccinés et qui, après avoir été soignés, regardent le médecin en disant « Mais quand est-ce que je peux me faire vacciner? » Ben, ça fait depuis le mois de janvier 2021 qu'on vaccine au Québec. Moi, je n'ai plus aucune patience pour aucune de ces personnes-là. Puis les arguments qu'on utilise, des fois, je vois ça passer dans les journaux, où on dit « Oui, mais il faut être compréhensif parce qu'il y a des gens... qui sont pas à l'aise avec les ordinateurs, c'est pour ça qu'ils ont pas pris de rendez-vous. Ben là, je veux dire, va à ta pharmacie puis demande de l'aide à quelqu'un. Ou des gens qui nous disent, ça c'est un argument que j'ai vu passer plusieurs fois, des gens qui nous disent, oui, mais il y a une partie des gens qui sont pas vaccinés parce qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais.
Ouais.
Oui, mais même en Punjabi, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même en serbo-croate, on le sait que c'est important de se faire vacciner. Même en, je veux dire, en...
Oui, parce que quand tu parles...
C'est quoi cet argument-là?
quand tu parles à leur famille, c'est impossible que dans leur famille, il y a personne qui est capable de communiquer dans la société avec laquelle ils vivent, là. Je veux dire, t'as un enfant, t'as un petit enfant, t'as un voisin, t'as un ami, t'as, tu sais, souvent, c'est, ils ont des communautés, puis c'est normal de se retrouver en communauté parce que t'as quelque chose en commun. Mais à partir de là, c'est impossible que cette communauté-là vive en autarcie déconnectée à ce point-là.
Moi, je trouve que c'est un argument complètement... Je suis plus capable d'entendre cet argument-là.
Ben, écoute, tu vas voir les voix. En tout cas, il y a plein d'affaires, mais c'est extrêmement choquant. Puis je pense pas qu'on fera jamais la paix avec ça. Parce que c'est une injustice complète. Pourquoi on prioriserait, tu sais, quelqu'un qui a refusé? Tu sais, on le fait, puis les médecins veulent le faire, là, mais pourquoi, tu sais, pourquoi, mettons, cette jeune femme-là serait pas aussi importante que quelqu'un qui a la COVID?
C'est très, 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 très frustrant. Puis, écoute, tu sais, on parlait de douleur tout à l'heure, puis tu nous racontais dans cette histoire qui t'est arrivée en 2004. Ouais. Écoute, je veux juste raconter une mini anecdote. Tu le sais, moi, j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire avant les fêtes. Là, c'était en fait, c'était au mois de septembre. Puis, écoute, j'étais dans des douleurs atroces. Là, j'étais sur la morphine et tout ça. Puis, j'ai passé 24 heures. Ça a été le pire 24 heures de ma vie. Mais si, quand j'étais à l'hôpital, on m'avait dit, ben, Madame Durocher, on doit délester, on ne peut pas vous opérer, puis il va falloir que ce soit 72 heures, puis peut-être une semaine, je pense que je serais devenue cinglée. Je veux dire, c'était tellement insupportable comme douleur.
Mais dans ton cas, en tout cas, moi, ce que j'ai compris en parlant à différents médecins, dans ton cas, ça, c'est une urgence où la vie et la mort est là, hein, parce que si tu te fais pas opérer, tu vas t'empoisonner. C'est comme une péritonite, comme l'appendicite qui devient une péritonite. Il faut opérer, tu sais, parce que si ça explose, je sais pas si c'est pas le bon mot, mais si ça éclate à l'intérieur, ça va t'empoisonner.
Donc, je suis d'accord, Marie-Claude, mais on s'en va vers ça. On s'en va peut-être vers des médecins aux urgences, aux soins intensifs, qui vont être obligés, à un moment donné, ils vont avoir deux patients d'urgence égale, et ils auront juste pas les ressources. C'est ça qui m'inquiète, moi. Puis c'est plus, le délestage, mais le triage, c'est inquiétant.
Ce que tu dis, ils ont eu peur d'en arriver là l'an passé, hein, on s'en souviendra. Oui, ils ont passé proche, il y a des médecins qui étaient... qui disait on peut pas en arriver là. T'sais, des médecins qui n'en dormaient pas la nuit parce qu'on personne veut faire ça, parce que les médecins, c'est des êtres humains, là. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un protocole et le protocole ne s'est pas appliqué, mais je me dis, s'ils ont passé proche, puis s'ils ont pensé il y a quelques mois, et là, ça n'a jamais été aussi pire que présentement. Il doit avoir des meetings, là. Il doit avoir des réunions assez spéciales. Écoute, ça doit brasser à l'intérieur gens-là.
Ça doit.
On a un système, on espère pas se rendre là, mais effectivement, on est proche.
Oui, Marie-Claude, tu voulais absolument revenir sur cette histoire. On a appris que l'explosion qu'il y avait eu, la maison qui avait explosé à Arvida, que finalement, c'est intentionnel, là, ça n'était pas accidentel. Un père qui a fait sauter sa maison avec ses deux tout jeunes enfants à l'intérieur de la maison, et il venait de se séparer avec sa conjointe. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette situation-là, Marie-Claude?
Ben moi, ça m'a ramené rapidement à Marie-Paul Mekenis, qui est une femme qui vient du même village que ma mère en Gaspésie, où j'ai habité, de Gascon. Il y a plusieurs années, dans le cas de Marie-Paul, elle s'est séparée du père de ses enfants. Et il a très, très mal pris la nouvelle, puis elle menaçait tout le temps. Tu sais, ça a été... Elle écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Survivante ». Elle en a fait un documentaire qui s'appelle « Les survivantes ». Et Marie-Paul, tout ça s'est passé en 96. Un soir, il l'a appelée pour regarder à l'extérieur. Puis quand elle a regardé à l'extérieur, elle a vu la maison de son ex-conjoint.
Ah, c'est épouvantable.
Exploser. Et ses deux garçons étaient à l'intérieur. Mmh. Alors, c'est tout de suite cette image-là qui m'est revenue, parce que j'ai reçu régulièrement quelques fois Marie-Paul pour me parler de ce drame dont on se remet jamais. Et c'est pendant qu'elle était hospitalisée parce qu'elle a eu un choc nerveux très, très, très fort, bien, il y a eu le service funéraire et les garçons ont été enterrés avec le père. Et ça, elle n'a jamais été capable de faire exhumer les corps de ses garçons. Ça a été aussi une crise intérieure pour elle de vivre ça. Mais on peut imaginer ce drame-là qui te poursuit. Puis elle a fait un documentaire où on voyait d'autres femmes qui, écoute, c'était d'une tristesse ce documentaire-là, mais quelle réalité. Donc, c'est des infanticides. Et c'est ce qu'on a confirmé, ce que la SQ, a dit après 3 jours d'enquête, où ça a été très douloureux pour eux d'en arriver à ce constat-là, parce que le père connaissait les explosifs. Mm-hmm. Donc, il a fait exploser sa maison avec ses deux fils, Félix, 2 ans, Édouard, 6 mois. Une séparation récente. Il y avait eu ce qu'on pense, en tout cas, dans l'enquête, on est en train de dire qu'il y aurait eu un appel à la DPJ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais ces drames-là, tu sais, il y en a eu un en Outaouais qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ces drames-là, à toutes les fois, je n'en reviens pas. Tu sais, c'est comme si les hommes, dans ces cas-là, disent « Je vais tout enlever. Tu m'as laissé, mais je vais tout enlever. »
Et même de se dire, bon, je vais m'en prendre à cette personne-là que je déteste ou contre qui j'ai une colère absolument inouïe, c'est une chose, mais de s'en prendre aux enfants, moi, ça me glace le sang. Marie-Claude, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, une pensée et toutes nos condoléances à la famille éprouvée et aux survivants, à ceux qui restent. Merci beaucoup, Marie-Claude, de partager ces réflexions-là avec nous, puis on se retrouve sans faute demain.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
L'Institut national de la santé publique a publié au cours des derniers jours une revue de littérature qui s'intéresse à la faisabilité et à l'utilité de surveiller la COVID-19 dans les eaux usées. On va parler de tout ça avec Dr Caroline Huot. Elle est médecin conseil à l'INSPQ. Dr Huot, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous comment ça marche. Mettons qu'on n'a aucune idée. Là, donnez-nous un cours de analyse des eaux usées 101 pour commencer, pour qu'on sache exactement de quoi on parle.
Oui, ben en fait c'est ça. On peut retrouver le virus dans les eaux qui sont rejetées là à partir des toilettes. Autant les personnes symptomatiques qu'asymptomatiques excrètent le virus dans les selles. Donc on retrouve le virus dans les eaux usées. Avant qu'il soit traité à l'usine, on peut recueillir cette eau-là et avec des techniques moléculaires, là, retrouver le virus dans les selles. Puis on peut le quantifier pour savoir combien il y en a, donc voir est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, savoir à quel point ça circule dans la population, là.
Donc, c'est une méthode qui est considérée fiable, quoi, à 100%? Est-ce que si, mettons, j'analyse des selles, mettons, un mercredi et que je considère que, selon ce que ça me dit, 10% de la population a atteint la COVID, est-ce que je peux prendre ces chiffres-là et me baser là-dessus à 100%? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur, autrement dit?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une méthode qui est plutôt intéressante pour connaître les tendances de circulation du virus dans la population. Donc, est-ce qu'il est présent ou non? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça augmente rapidement? Est-ce que ça plafonne? Est-ce que ça diminue? Donc, c'est une technique qui est intéressante pour ça. Ça a aussi démontré dans quelques études que ça pouvait permettre de détecter la circulation du virus plus tôt qu'avec les tests cliniques, parce qu'il n'y a pas de délai. On n'a pas besoin d'attendre que les gens présentent des symptômes, oui, se présentent à la clinique de dépistage et tout. Mais on peut pas vraiment, avec cette technique-là, pour le moment, dire combien de personnes dans la population sont atteintes, là, précisément.
Je comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Parce que si, mettons, on fait une analyse, ça nous permet justement de voir la prévalence du virus. Donc, pourquoi on peut pas en déduire un pourcentage de la population?
En fait, c'est probablement quelque chose qu'on va être capable de faire à un moment donné, si on veut, mais il y a encore plusieurs incertitudes qui persistent. Des choses qu'on connaît pas, comme par exemple, on sait pas quelle proportion de la population excrète, pendant quelle période il excrète. Ça peut être variable d'une personne à l'autre aussi, la quantité de virus. Après ça, ben, tu sais, dans les eaux qui sont recueillies à l'usine de traitement, il y a souvent d'autres eaux, comme des eaux de pluie qui peuvent venir. Puis on sait pas non plus à quel point le virus se dégrade dans tous les conduits qui mènent à l'usine de traitement des eaux. Donc, il y a quand même différents facteurs d'incertitude qui font que pour le moment, c'est plutôt difficile de dire avec cette technique-là précisément combien de personnes sont atteintes, là.
Je comprends. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variables qui vont augmenter ou minimiser les résultats. Donc, c'est une mesure intéressante, mais c'est pas une mesure fiable non plus à 100%. On peut pas être sûr à 100% du taux, mettons, de contamination.
En fait, c'est ça. Elle est plutôt intéressante, comme je disais, pour voir les tendances générales, puis comme un outil complémentaire à d'autres indicateurs qu'on utilise, comme les résultats des tests de dépistage ou les niveaux d'hospitalisation. Donc, puis c'est une mesure qui est intéressante aussi dans le sens que pas besoin que les gens présentent des symptômes. S'ils sont atteints puis sont asymptomatiques, on peut les capter aussi. Donc, il y a différents éléments d'intérêt par rapport à cette mesure-là, mais elle est complémentaire à d'autres mesures qui nous permettent de suivre la pandémie.
Voilà. Par contre, on sait que les derniers temps au Québec, bon, on a décidé justement que il y avait pas suffisamment, que la capacité pour les tests PCR était pas assez grande. Donc, on a dit bon, on va restreindre ça seulement à 5 groupes parmi la population. On a dit on va miser aussi sur les tests rapides que les gens vont avoir à la maison. Puis encore là, il y a des problèmes où on a un problème de distribution. Donc, ça peut pas. Donc, en fait, c'est quand on prend tout ça que ça peut nous donner un portrait global. Quand vous dites que d'analyser les eaux usées, ça nous permet de mettre l'émergence du virus, de suivre les tendances, est-ce que, par exemple, quand on analyse les eaux usées, on est capable de faire la différence entre est-ce que c'est du delta, c'est du omicron, quel pourcentage de delta, d'omicron? Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça quand on fait l'analyse?
Oui, ça a été fait dans quelques études, puis même dans certains projets là, dans certaines régions. Donc oui, on peut voir les différents variants dans les eaux usées, puis on peut voir tranquillement le remplacement d'une souche par une autre, puis savoir ben il y a tant de pourcentage des souches qui sont présentes dans les eaux usées qui sont liées à l'omicron par exemple, puis tant au delta. Donc à Ottawa par exemple, là, ils ont fait un projet intéressant où ils ont vu l'émergence de l'Omicron au mois de décembre dans les eaux usées.
D'accord. Vous dites c'est à Ottawa au mois de décembre. Donc, les études que dans la littérature scientifique qui ont été révisées par l'INSPQ, ce sont des études qui ont été faites ici au Canada ou un petit peu partout à travers le monde où on s'est penché sur la question des eaux usées?
Oui, on a vraiment révisé toutes les études internationales, là, puis on le fait pour la période de novembre 2019 jusqu'en février 2021. C'était surtout pour soutenir un projet de recherche qui allait avoir lieu au Québec, mais c'est certain que nous, même après ça, on a continué à faire une veille, si on veut, de la littérature, puis à suivre les différentes études, même si on n'a pas contribué là, pour la rédaction de ce rapport-là.
Mais ce que je comprends, c'est que votre analyse des différentes études s'est terminée donc en février 2021, mais que depuis ce temps-là, il y a eu d'autres études. Et quand vous dites que tout ça a été fait dans le but de faire une étude ici au Québec, est-ce qu'elle est faite, cette étude-là? Est-ce qu'on est en train de la faire? Est-ce qu'on va la faire? Oui?
C'est un projet de recherche qui a eu lieu là au Québec de janvier à juin 2021, oui.
Et est-ce qu'on a les résultats de cette étude-là?
Ben en fait, je pense que les chercheurs sont à écrire, à publier les rapports. Là. C'était une étude qui était financée par des fonds de recherche.
Je vous sens réticente à en parler de cette étude-là. Est-ce que je me trompe? C'est parce que ce serait intéressant de voir si l'étude québécoise vient confirmer, en fait, les différentes études qui ont été faites ailleurs. Puis c'est sûr que nous, dans la population, on va se dire, ben si les études qui ont été faites à l'extérieur du Québec, l'étude au Québec, tout le monde pointe dans la même direction, on va tous se retourner vers le gouvernement en disant, ben faisons-le ici parce que c'est un outil dont on a besoin.
Oui, c'est certain. Ben, c'est que dans le fond, les résultats sont pas publiés, mais oui, ça allait dans le même sens que le reste de la littérature. Là.
D'accord. Donc, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer pour le ministère. Vous êtes à l'Institut national de la santé publique. Donc, c'est pas vous qui faites les règlements ou les mesures, mais il reste exact. Que donc vous pouvez pas vous prononcer là-dessus, mais quand même le grand mouvement, c'est de dire oui, c'est un indicateur quand même extrêmement intéressant. Donc vous comprenez que nous, dans la population, on se pose la question, pourquoi on le fait pas encore, pourquoi on n'est pas dans cet état d'esprit là
oui, c'est ça. Ben c'est certain que la revue qu'on a faite, ça a montré que c'est une méthode qui est en émergence, qui est en plein développement, ça se développe rapidement. C'est une méthode novatrice, intéressante, qui présente, par exemple, pour le moment, encore certaines limites à différents niveaux, par exemple, pour l'interprétation des résultats, quelles mesures de santé publique peuvent être liées quand on voit que ça augmente ou que ça diminue. Aussi, toutes les techniques en laboratoire se peaufinent toujours. Donc, il y a certaines limites qui ont été identifiées, mais qui pourrait certainement être adressé si on décidait, par exemple, de faire un projet pilote d'essai au Québec.
Donc, vous souhaiteriez... J'aimerais ça vous entendre dire, l'INSPQ souhaiterait que cette méthode-là soit utilisée au Québec, mais je sens une réticence de votre part, que je m'explique mal,
c'est pas
respecte.
Notre rôle présentement dans ce dossier-là, c'est pas notre rôle de faire des recommandations comme celle-là. Nous, on a fait des constats, on a révisé la littérature, on les présente dans le rapport, puis on espère que le rapport va être lu attentivement.
D'accord, parfait. Je comprends et je respecte le fait que vous pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas pour mandat, en tout cas, de faire des recommandations, mais je pense qu'on est capable de lire entre les lignes et de comprendre que le but ultime, c'est évidemment que ça débouche sur quelque chose de concret. Donc, souhaitons, croisons les doigts, espérons que ce rapport-là ne restera pas lettre morte et qu'il va pas accumuler de la poussière quelque part. Donc, docteur Caroline Huot, je rappelle que vous êtes médecin conseil à l'INSPQ et vous veniez nous parler donc de ce rapport sur l'analyse des eaux usées, qui est un indicateur, en tout cas drôlement intéressant, dans cette lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Dr. Huot.
Merci à vous.
Merci, et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde. C'était Julien Boutillier cette semaine qui est à la recherche. Merci à vous d'être là. On se retrouve demain.
Cube Radio.